Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.
Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, que mon prénom c'est Bernard, mon nom c'est Clotaire. Aujourd'hui ma famille est avec moi, ma femme, mes trois enfants sont là. Je vous demanderai de se mettre debout pour qu'ils puissent se présenter. Voilà, Lucas, Leroy et le petit Lemuel. Et Lisette se trouve, elle n'est pas encore arrivée, certainement. Ben, nous étions, comme j'ai dit la dernière fois, nous étions membres de l'église d'Argenteuil, femme et moi, le temps de nos études théologiques, de 2001 à 2005, nous avons passé un urgence humaine, puis nous sommes rentrés aux Antilles. Nous étions à l'époque responsables du groupe des jeunes. Maintenant, ce ne sont plus des jeunes, ce sont des adultes là maintenant. Voilà. C'est formidable de voir que ces jeunes-là, ils se sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. En écoutant la musique ce matin, que je me rappelle que on avait prié pour qu'il y ait des musiciens. L'Église avait prié pour qu'il y ait des musiciens. Peut-être beaucoup ne se rappellent pas de cela. Mais je vois maintenant pour moi que Dieu a véritablement béni son Église. L'Apocalypse nous dit que Dieu marche au milieu de son Église. Donc il connaît ses besoins. Et c'est lui qui donne son temps. Autre chose que j'ai compris, que lorsque nous sommes actifs dans l'œuvre de Dieu, nous voyons les œuvres, la grâce de Dieu. Mais lorsque nous sommes aussi passifs, eh bien, nous boudons tout le temps. Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Je crois que j'ai tout dit en me présentant. Là, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Un texte que nous connaissons assez bien. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 13 jusqu'à 21. S'il y a une chose que moi j'aime ici, c'est que on m'entend bien. J'ai pas besoin de accentuer ma voix pour être entendu. Par contre, chez moi, je suis obligé de crier un peu, même derrière le micro pour m'entendre. Elisabeth me reproche souvent, mais tu parles pas assez fort. Et là, je me sens à l'aise. C'est vrai que dans notre église, à Port-Louis, l'église baptiste de Port-Louis, avec le pasteur Dick Dominique, certainement que certains d'entre vous le connaissent. Mais je suis l'un des responsables des groupes dominicaux, des adultes, je fais l'enseignement, et aussi l'un des responsables des groupes, du groupe des hommes de l'église de Port-Louis. Et Lisette, elle fait partie du groupe des femmes, où elle est animatrice. Donc nous avons du bien rempli là-bas. Matthieu, chapitre 14, et à partir du verset 13, nous dit que, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de la ville, des villes, et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Revois la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-le vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains de poisson. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir le peuple, la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jusque. Matthieu cherche à nous présenter un événement miraculeux. Un événement qui s'est réellement produit par une parabole. Puisque très rare que les 4 évangiles rapportent des faits de ce type-là. Et nous trouverons ce récit dans les 4 évangiles. C'est pour bien nous indiquer combien que l'œuvre du Seigneur a de l'importance. Comment il est important de comprendre l'œuvre du Seigneur. Et aussi la compréhension sur Jésus-Christ. Une interprétation mettant l'accent sur uniquement le besoin matériel nous fait passer à côté de l'essentiel. Car lorsque nous lisons ce texte-là, nous voyons toute chose que Jésus a fait un miracle. C'est pour cela que les 4 évangiles vont présenter que l'œuvre du Seigneur est sa personne. Et c'est pour cela aussi que je voudrais aussi présenter comme titre au message un nouveau regard. Pourquoi un nouveau regard? Parce que dans quelques heures, nous finissons cette année et nous commençons une autre année. Un autre regard, certainement, que, comme Joanne l'a dit, que nous allons faire des vœux. Nous allons refaire encore de nouveaux engagements. Pourquoi? Parce que nous voulons certainement reconsidérer notre relation avec le Seigneur. Donc nous proposons premièrement de porter un nouveau regard sur le Seigneur. Puis sur le peuple, ensuite sur les disciples, et nous conclurons après. Il est étrange lorsque, au verset 13, Matthieu nous dira que, à cette nouvelle, Jésus partit de là-bas. Mais quelle nouvelle! Nous n'avons pas pris le temps de lire le début du chapitre 14 qui va nous montrer comment que Jean-Baptiste a été mis en prison, puis décapité. Et lorsque Jésus apprend cette nouvelle, il est triste. Et Matthieu prend le temps de dire que voilà qu'il monte dans la barque et il va dans un lieu désert. Mais en continuant notre texte, on voit que c'est plus loin que lui, Matthieu, prendra soin de nous dire que ses disciples étaient avec lui. A-t-il oublié de nous le mentionner que Jésus est parti avec ses disciples? Ne pense pas que Matthieu a oublié. Mais Matthieu voudrait nous montrer autre chose. Nous présenter Jésus-Christ lui-même, son attitude, ses émotions face à la mort de proche. Vous savez que le plus souvent, lorsque Jésus se retirait de la foule et allait dans un lieu désert, c'était le soir. Pour prier, passer du temps avec le peuple, et avec ses disciples. Mais là, c'est pas le coucher du soleil. Matthieu veut nous montrer autre chose, que son humanité, cet homme qui souffre à la mort de proche. Les évangiles encore vont nous montrer comment que lorsque Lazare est mort, il a pleuré, il a été triste. Nous voyons qu'à Gethsémané comment il s'est plié en quatre. Matthieu ici va nous présenter l'humanité de cet homme que nous avons vu que. Et en plus, Matthieu lui va présenter dès le début de son livre. Sa généalogie pour montrer comment que c'est véritablement un homme venu sur terre comme a prédit Esaïe et les autres. Mais Marc, dans son 6e chapitre, prend le temps de souligner que Jésus part avec ses disciples. Mais nous soulignerons encore, Marc nous souligne autre chose, que les disciples venaient d'une mission d'évangélisation. Et Marc ne nous le précise pas. Matthieu, pardon, ne nous le précise pas. Cela ne dit pas qu'ils se contredisent. Mais au contraire, Matthieu, dans son livre, va nous présenter la personne de Christ, le roi, le Messie. Et c'est tout à fait normal qu'il va présenter sa généalogie. D'où il vient, d'où il sort. Mais Marc, lui, va présenter de son livre le serviteur. On n'a pas besoin de savoir d'où il sort, lui. Le serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'est pas important. Mais qu'est-ce que ces deux hommes vont présenter? Déjà, Jésus-Christ venu sur terre, comme il nous a dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, ça fait que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais Marc, de son côté, va nous présenter qui? Le serviteur. En disant que Jésus qui disait en Luc, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais la volonté de mon Père. Mais autre chose que ces deux hommes vont nous montrer, Matthieu et Marc, lorsque Matthieu va nous montrer un homme qui souffre, qui prépare son deuil, mais Marc de son côté va nous montrer qu'un homme qui va oublier sa souffrance et s'occuper de ses disciples. Je suis venu pour servir, il a dit, et non pour être servi. Est-ce que c'est pour cela que Jésus s'oublie lui-même? Il s'oublie et il s'occupe d'abord des autres. Mais en continuant plus loin, lorsqu'on voit que lorsque la foule est arrivée, autre chose, il est ému de compassion. Ému de compassion. Et Marc nous dira qu'il est ému de compassion parce qu'il voit le peuple comme... Il voit la foule comme des brebis sans berger. Matthieu nous dit que aussitôt que Jésus va commencer à guérir les malades, Luc nous dit autre chose, que Jésus va parler ce qui concerne le royaume de Dieu. Et non seulement qu'il va parler de ce qui concerne le royaume de Dieu, mais il fera des miracles au milieu du peuple, comme on a vu ce matin en Exode, que Dieu faisait des prodiges au milieu de son peuple, pour que ce peuple puisse se rappeler, il est celui que les prophètes avaient annoncé. Matthieu, Marc, Luc, se complètent. Et il faut ressortir que voilà l'humanité d'un homme, cet homme que Dieu a envoyé. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé selon Actes chapitre 4, verset 12, sinon le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aller n'importe où, mais si vous ne cherchez pas le nom de Jésus-Christ, si vous ne cherchez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un homme perdu. Et vous irez en enfer, séparé de Dieu. À partir du verset 14 à 19, Matthieu nous présente autre chose. L'humanité de cet homme, la divinité pardon, de cet homme. Un homme qui fait des miracles. Et il prendra le temps de préciser, quatre évangiles prendront le temps de préciser, Jésus ira dans le désert. Mais lorsqu'il s'agit du désert, n'est pas un désert comme nous le pensons. Mais plus tard, il nous dira dans notre texte qu'il fait dans notre texte, il fait asseoir le peuple dans l'herbe. Ce qui veut dire que lorsqu'il parle du désert, c'est d'un lieu où il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien du tout. Pour amener encore le peuple à comprendre que voilà encore ce que Dieu a fait dans le désert, dans le passé. Il le fait à nouveau, en guérissant les malades, en donnant encore à manger au peuple. Et cela révèle encore qu'il est le Messie promis par les prophètes. Mais une question, la foule et les disciples ont-ils profité? Ont-ils profité de ce moment? Nous voyons que la foule cherche la présence de Jésus. Quand il fut sorti de là-bas, au verset 14 de notre texte, il vit une grande foule. Et Matthieu prend le temps de dire que voilà que le peuple est sorti à pied dans les villes pour venir rejoindre Jésus dans un lieu désert. Comment que les détails dans la Bible, c'est ce qui ressort une richesse pour nous aujourd'hui. Nous dirons que voilà un peuple qui est motivé, voilà un peuple qui aime Dieu, voilà un peuple qui aime se trouver dans la présence de Dieu. Mais au fait, est-ce que c'est une réalité? Tout nous, dans Matthieu chapitre 13 et verset 53-57, et nous verrons. Lorsque Matthieu chapitre 13, verset 53 à 57 nous dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jules? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas parmi nous aussi? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. La version sur le dira que ils n'ont pas foi en Jésus-Christ. Le peuple s'active auprès de Jésus-Christ, mais n'ont pas foi. La seule chose qu'elle cherche, c'est la foule cherche une seule chose que du spectacle, des miracles. Et les évangiles nous rapportent que c'est parce que Jésus faisait beaucoup de miracles que la foule le suivait. Mais en vérité, elle n'a pas vraiment profité de ce ministère d'amour. Marc nous prend le temps de nous dire que Jésus enseignait et faisait des miracles. C'est pour rappeler ce qui s'est produit dans le passé. Mais malheureusement que ce peuple-là a préféré entendre effectivement ce message, mais l'a laissé uniquement dans sa tête. Mais n'a pas voulu permettre à ce message de descendre dans son cœur. Parce que c'est par la foi que véritablement que l'on peut comprendre et connaître ses vrais besoins. Et le peuple n'avait qu'une seule chose. Boire et manger et boire du spectacle. La question que nous pouvons nous poser à partir de là, et nous, que faisons-nous ici? Maintenant, tout le monde regarde vers les disciples. Marc nous dira que ce sont des hommes qui sortent d'une mission. Des hommes qui ont fait des prodiges au nom de Jésus-Christ, qui ont guéri, qui ont vu, qui ont fait des choses spectaculaires. Mais lorsque le soir est arrivé, ils disent à Jésus, mais envoie la foule, on n'a rien ici. Et Jésus leur retourne la question, mais donnez-leur vous-même à manger. Mais comment allons-nous faire? Pourquoi Jésus leur pose-t-il cette question-là? Parce qu'ils ont fait des miracles il n'y a pas longtemps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu des prodiges en allant en mission. Jésus leur a dit que ne prenez ni bourse, ne prenez ni vêtements. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Et Jésus leur demande là maintenant, donnez-le vous-même à manger. Comment on le fait? Vous savez que l'obéissance à la parole de Dieu est une question de foi. Ce n'est pas une question de principe, ou de connaissance, ou de condition. C'est de foi. J'y crois parce que je suis convaincu qu'il est le Seigneur et Sauveur. Si nous ne mettons pas notre foi dans cette parole, c'est que nous n'y croyons pas. Et ces miracles, encore, va prouver, est une preuve du pouvoir miraculeux de Jésus. Et le fait que les quatre évangiles nous informent, moi que c'est incompréhensible, c'est compréhensible pour, devrait être compréhensible pour les disciples. Pourquoi? Parce que il aurait dû se rappeler que dans le passé, là encore dans le passé, il avait manqué du pain. Les provisions avaient été déjà multipliées par la grâce de Dieu dans les mêmes circonstances. Et quelques pains avaient suffi pour rassasier environ 200 hommes. Nous trouvons ce récit dans le livre de Deux Rois au chapitre 4. Mais ici, Jésus fera ce même miracle. Cela s'est produit par le prophète Josué. Élisée. Et ici que Jésus va produire ces mêmes choses, ce même miracle-là, mais à une échelle énorme, avec 5 pains et 2 poissons. Et ils sont partis avec 12 paniers remplis, comme autrefois ils sont partis avec des listes. Mais ils n'ont pas. Ils se sont pas rappelés de ça. Comment que ces hommes-là se sont figés sur une connaissance de Jésus-Christ, sur le passé, de ce qu'ils ont vécu avec lui lorsqu'ils étaient en mission. Mais voilà que Jésus leur offre une nouvelle mission. Ils n'y croient pas vraiment que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Malgré tous les miracles et toute l'œuvre que Christ a fait au milieu d'eux. Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Matthieu semble nous montrer qu'il y a un point commun entre les disciples et Jésus et la foule. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et l'enseignement du Christ, du Seigneur, ne voit pas jusqu'à leur cœur. Puisque Jésus œuvre au milieu d'eux, ils ne le reconnaissent pas comme étant le Sauveur, le Seigneur. Il y a danger pour nous aujourd'hui. Danger de fonder notre relation sur nos expériences du passé. Ce qui va provoquer chez nous un effet qui va ressembler à celui de la foule et aussi des disciples. Nous serons des chrétiens religieux. Nous viendrons ici par habitude. Parce que le dimanche matin, il faut que je vienne à l'église, mais je viendrai à l'église. C'est tout. Je viendrai, je chanterai, et puis j'attendrai l'heure de la prédication, et puis l'heure de partir, et puis je rentrerai chez moi. Et le dimanche prochain, ça sera encore la même chose. Mais nous le voilà à l'aube de 2018. Nous avons fait des expériences avec le Seigneur en 2017. Mais lorsque Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, mais aussi c'est un projet d'avenir, qui veut dire que moi je ne serai pas là tous les jours avec vous, mais vous serez toujours là. C'est vous qui allez prendre ma relève. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là, enfin physiquement, mais par nous, son esprit qu'il est là. Les apôtres ne sont plus là. Mais la même question nous est posée aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Ce qui voudrait dire qu'en 2018, nous aurons à marcher par la foi en Christ. Reconnaître l'œuvre nouvelle des frères au milieu de nous. Non pas nous contenter de ce qui se produit en 2017 et nous attendre qu'en 2018, que si attendre que les effets de 2017 se reproduisent en 2018 pour que nous puissions bouger. Et les disciples sont devant un fait nouveau. Donnez-leur vous-même à manger, mais ils sont incapables parce qu'ils n'ont pas pu puiser dans leurs ressources parce qu'ils n'en avaient pas assez. Et si notre relation avec le Seigneur est basée sur ce qui s'est produit dans le passé, eh bien nous ne pourrions pas nous tourner vers l'avenir et trouver en nous la foi nécessaire, les ressources nécessaires pour que nous puissions avancer avec lui. Et nous allons nous retrouver comme ces disciples-là, mais baisser les bois, qu'allons-nous faire? Mais nous voyons quand même cette grâce du Seigneur qui dit aux disciples, apportez-moi cela. C'est moi qui ferai ces choses avec vous. Je ne vous laisse pas tout seul. En 2018, il ne sera pas tout seul. Le Seigneur sera avec nous. Nous allons connaître des choses nouvelles en 2018. Nous serons mis à l'épreuve en 2018. Le Seigneur donnera à son Église d'autres objectivités en 2018. Mais il sera là avec vous. Parce qu'il dira à ses disciples, apporte-moi ces pains pour que je puisse les multiplier pour vous. Donc, nourrissons notre relation avec lui en 2018. Pour que nous puissions, que vous puissiez, pour que nous puissions voir des prodiges, des miracles encore au milieu de son peuple. Jacques, chapitre 1er, nous dira que seulement, j'ai pris le texte de la version de ce même qui nous dit seulement, ne vous comptez pas à l'écouter. À écouter sa parole, mais traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Donc, le défi nous est lancé en 2018. Sommes-nous prêts pour cela? De toutes les façons, même si nous ne le sommes pas prêts, mais l'Esprit nous donnera les moyens d'être prêts. Et même si, de toutes les façons que nous avons vu que c'est avec les disciples qu'il a opéré, ce sont les disciples qui ont donné à manger à tout ce monde. Et nous ne le voulions pas, le Seigneur nous utilisera. Mais une chose, croyons qu'il est celui que Dieu a envoyé pour nous sauver de nos péchés. Et qu'il est aussi celui qui est capable de nous sauver. Parce qu'il est aussi divin. Il est Dieu au milieu de nous. Il ne nous abandonnera jamais. Dieu ne meurt pas. Que Dieu puisse nous bénir.
Amen.